Une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui le grand témoin de 2000 ans d'histoire, une femme engagée, Dominique de Santi, une émission diffusée le 7 février 2002.
On veut bien qu'une femme soit une héroïne. On veut bien qu'elle soit reine, parce qu'alors là, elle est célèbre par institution. On veut bien qu'elle soit la favorite ou l'égérie d'un grand de ce monde, mais une femme qui est quelque chose par elle-même. Ça, on a beaucoup de mal à l'admettre.
D'histoire. Dominique de Santi a participé à presque toutes les grandes batailles politiques, intellectuelles, morales, sociales du XXe siècle. Dans la résistance dès le début de l'occupation, au sein du Parti communiste, quand, pour ne pas désespérer Billancourt, on fermait les yeux sur les horreurs du stalinisme, ou avec les peuples colonisés à l'époque où ils luttaient pour leur indépendance. Auprès du philosophe Jean Toussaint de Santi, qui vient de disparaître, elle a partagé avec lui tous les espoirs, toutes les illusions et toutes les désillusions de cette génération de normaliens qui, dans les années 30, découvraient la politique, le fascisme ou le communisme, à l'époque où la victoire du Front populaire avait divisé la France en deux. Une archivina du 14 juillet 1936.
Messieurs Léon Blum, Édouard Daladier, Maurice Thorez, Roger Salingro, Maurice Violet, Pierre Caux. Et Léon Jour ont pris place dans la tribune d'honneur.
Camarades, aujourd'hui, nous voyons parmi nous, avec le peuple, le président du Conseil, que nous voulons aider de toutes nos forces à réaliser le programme du Rassemblement populaire.
Dominique de Santi, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être dans ce
studio. C'est étrange d'entendre ça, c'est extraordinaire.
La victoire du Front populaire en 1936. Oui. Merci d'être venu peu de temps après la disparition de Jean Toussaint de Santi, dont vous avez partagé la vie et
dans
les engagements que vous avez
ans.
Et que vous avez d'ailleurs rencontré à peu près à l'époque de l'archive que l'on vient d'entendre.
En 1937. Oui.
Et c'était votre découverte de la politique, le Front populaire.
Ben, je n'avais d'autre idée de la politique que l'anticommunisme des amis russes de mon père qui étaient des émigrés démocrates, l'ancien chef du gouvernement provisoire
Kerensky, oui.
Voilà, et ses amis. Oui. Et alors évidemment, le communiste c'était pour eux, donc pour moi soi-disant, l'homme au couteau entre les dents, je n'y ai jamais entendu parler que des horreurs commises par les communistes. Et puis soudain, il y a eu le Front populaire, j'étais au lycée. Et c'était extraordinaire parce que c'était pas du tout la même chose. Il y avait des gens qui n'avaient jamais pris de vacances qui en prenaient sur leur tandem, l'homme pédalant en tête, la femme l'aidant. Il y a des gens qui découvraient la montagne et la mer. Il y a des gens qui, pour la première fois, comprenaient ce qu'était la vie. Et moi, je comprenais soudain qu'il y avait des gens qui n'avaient pas droit à la vie comme moi. Pas
et
la
c'est,
même.
C'est le début de la découverte, puis bientôt de l'engagement dans la politique du côté de la gauche, peut-être aussi à cause, ou grâce, ou avec, en tout cas, Jean Toussaint de Santi, que vous rencontrez, je crois, sur le toit de l'école normale supérieure.
Ben oui, on m'avait amené à la Garden Party, j'étais pas peu fière, et on m'avait parlé d'un philosophe corse un petit peu étrange, qui tirait du revolver dans les turnes, les petits bureaux où se rassemblaient les normaliens pour travailler, et personne ne me le présentait. Et à un moment donné, je vois un chat, j'avais déjà la manie des chats, alors je fais quelques pas, je caresse le chat, et il y a quelqu'un d'autre qui caressait le chat, et nos mains se sont rencontrées, on s'est regardées, c'était un petit brun très maigre et très aigu, et c'était Jean Toussaint de Santi, mais je ne le savais pas.
Alors vous allez lui tenir la main, si je puis dire, pendant 63 ans, c'est quand même un parcours que vous faites pratiquement ensemble, presque tout le temps. Alors, vous êtes une femme indépendante, Dominique de Santi,
et
vous vous mariez avec lui alors que vous êtes contre le mariage, et vous, en plus vous dites, dans des mémoires qui ont été publiées récemment aux éditions des Jacob, vous dites, je me suis mariée pour mon indépendance. Alors là, je ne comprends pas.
Mais parce que j'ai été élevée par mon père, qui avait des idées grandioses sur l'indépendance et toutes les professions que pouvaient exercer les femmes, la preuve, Marie Curie, etc. Mais il fallait être rentré à 10h30, 11h. Et De Santi m'a dit, très lucidement, tu sais que le mariage émancipe la femme. Or, à mon époque, on n'était majeur qu'à 21 ans. Hein. Et donc, on se marie pour 6 mois. Et puis, si ça nous va, on continue. Sinon, on se sépare. Mais toi, tu es émancipée. Et voilà comment je suis entrée dans quelque chose qui m'a conduit toute la vie durant jusqu'à sa mort à lui.
Et qui vous a conduit dans la résistance. Vous vivez un peu d'ailleurs tous les deux comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, hein, très libre de vos gestes les uns et les autres.
Oui.
C'était le seul contrat réel que vous respectiez.
C'est tout à fait vrai, parce que je crois que chacun de nous ne pouvait aimer qu'un être qui serait entièrement libre et qui le choisirait à chaque instant avec élan. Pas tout à fait comme Beauvoir et Sartre, en ce sens que quand j'ai lu, bien après la mort de Sartre, les lettres au castor, ça m'a indigné qu'on traite comme un objet l'autre partenaire. C'était pas notre genre.
Alors on est peu de temps avant la guerre, quand vous rencontrez Jean Toussaint de Santi, Dominique de Santi, et puis vous vous engagez dans quelque chose qui est plus risqué que le Front Populaire, c'est la résistance. Alors là, vous êtes toute jeune.
On était un petit peu contraints, vous savez. Parce que
c'est tout le monde ne s'est pas dit ça.
Mais non, mais déjà, nous trouvions que la société était mal faite. Donc il fallait la faire autrement. Et puis tout d'un coup, c'est le désastre total. Et le nazisme, qui était notre exécration, notre haine, sur notre sol, et nous gouvernant par Pétain interposé ou directement à Paris. Et c'était insupportable. Alors on a fait ce qu'on pouvait faire. On s'est réuni à un groupe d'étudiants. On a
oui, un groupe qui s'était appelé lui-même le Zoo.
Le Zoo, oui, le Zoo. Et le Zoo éditait un tract recto verso qui s'appelait Sous la botte, qu'on tirait sur des rodéos interdites. Enfin, tout ça, toute la vieille histoire de la clandestinité. Je dois dire que Jean-Paul Sartre, quand il est rentré de son stalag, de son camp de prisonniers de guerre, 3 semaines après, a demandé au philosophe Merleau-Ponty, est-ce que vous connaissez ou est-ce que tu connais quelqu'un qui travaille contre? Et Merleau a dit, oui, je connais, mais c'est des étudiants, ils n'ont rien publié, c'est pas du tout le groupe d'écrivains dont tu rêves, ils ne sont encore rien. Mais ça ne fait rien, dit Sartre, je veux les rencontrer. C'est ainsi qu'avec lui, Sous la botte s'est fondu dans Socialisme et Liberté. Mmh. Beau programme.
Et que vous rencontrez aussi Dominique de Santi pendant la résistance, donc de nombreux communistes, et c'est par la résistance avec
cela,
elle que vous avez.
C'est pour cela.
Que vous êtes entré au Parti communiste.
Alors vous savez, je vais vous dire. Je crois que la politique est une passion beaucoup plus qu'un raisonnement. C'est mon idée de la politique et mon expérience, hélas, de la politique. Et je crois qu'à la bataille de Stalingrad, quand on savait que les Russes étaient le garant de notre liberté et que c'est parce qu'ils tenaient et parce qu'ils repoussaient Hitler qu'on avait un espoir, eh bien, on était très fiers de s'engager dans leur parti, vous voyez.
Et vous y engagez donc à la fin de la guerre, au moment où le Parti communiste est devenu
clandestin, il était.
Puis devient petit à petit le plus grand parti de France. On écoute son chef, Maurice Thorez, à la fête de l'humanité, juste après la guerre, la première fête de l'humanité après la guerre, en septembre 1945.
Chers camarades, en cette fête magnifique de l'humanité, au nom du comité central du Parti communiste, j'ai la joie immense et la grande fierté de remettre au camarade Prouveau, un mineur de Bruay-en-Artois, la carte du millionième adhérent du Parti communiste français. Le peuple de France dans son ensemble a la conviction que notre Parti communiste, fidèle à son idéal communiste, le plus beau, le plus noble que puissent se proposer des hommes, fidèle irréductiblement au principe du socialisme scientifique, du socialisme de Marx, Engels, Lénine et Staline.
En C'était Maurice Thorez en septembre 1945, oui, première fête de Lima. Vous y croyez?
Mais bien sûr, en 1945, j'y croyais tout à fait, que c'était l'avenir de l'humanité et que notre génération d'intellectuels, évidemment, serait un petit peu sacrifiée, enfin devrait sacrifier un petit peu son confort, mais peu importe, parce qu'on allait très exactement vers ce qu'on disait les lendemains qui chantent. J'y ai cru à travers beaucoup d'aléas. Et alors que j'avais des amis intimes qui me montraient des documents sur les camps soviétiques, mais je leur expliquais que c'était des camps de rééducation et que le reste était fabriqué.
On y reviendra, Dominique de Sentive. Alors, vous y adhérez, puis alors vous y participez en tant qu'éditorialiste de deux publications communistes, appelées Le Patriote et La Nation, je crois.
Exactement.
Et alors, vous voyagez, d'abord vous découvrez les grandes grèves de 1947.
Ah, c'était fantastique. Ouais. C'était vraiment très, très beau. Et on avait tellement l'impression qu'on forgeait l'avenir à travers beaucoup de souffrances, parce que, vous savez, les grévistes avaient généralement beaucoup d'enfants et beaucoup de dettes pendant les grèves, et tout ça était assez dramatique, mais il tenait bon. Et j'étais prise dans, nous étions pris dans ce mouvement de masse, et vraiment on y croyait.
Oui, vous y croyez d'ailleurs au point quand même de justifier l'injustifiable, vous le rappelez d'ailleurs dans vos mémoires, c'était
tout
ces grands procès qui se déroulent à partir de 1949 dans les pays de l'Est. Écoutez cet enregistrement du plus célèbre de ces procès staliniens, celui d'un ancien chef du Parti communiste tchèque, Slansky, auquel le procureur demande d'avouer des crimes imaginaires. C'était la méthode employée à l'époque par les partis communistes. Écoutez.
Accusé Slansky, comment vous, membre du parti depuis 30 ans, avez-vous été amené à entrer au service des impérialistes et à devenir le chef du complot contre notre démocratie populaire? J'avoue être entré en contact avec le représentant des impérialistes anglo-américains et de leur service secret, Kony Ziliakus, qui s'immisçait dans les affaires intérieures tchécoslovaques.
Ah oui, mais alors là, j'y croyais plus au moment du procès.
152, celui-là.
Oui, mais parce qu'il s'était passé quelque chose à la Noël 49. Je n'ai été envoyé comme journaliste qu'à un seul de ce genre de procès, à Sofia, juste avant Noël 49. Et j'ai pas eu de chance parce que le seul des chef communiste, des dirigeants accusés, qui ait plaidé non coupable, qui ait dit, qui se soit dressé, qui ait dit je suis innocent.
On va y venir, Dominique de Sentive. Mais à l'époque, est-ce que vous saviez, parce que ces aveux terribles, qui ont d'ailleurs coûté la vie à Slansky,
ah,
et à 10 de ses camarades qui ont été fusillés, est-ce qu'on savait à l'époque qu'ils étaient extorqués par la torture?
Mais je ne le savais évidemment pas. Et alors, ce qu'il y a, c'est que Rijk, le ministre hongrois, a plaidé coupable, et quelques mois après, Kostov, le bulgare, que je ne connaissais pas du tout, s'est dressé, a dit « Je suis innocent » et j'ai cru.
Alors justement, vous n'avez pas assisté au procès Slansky, vous n'avez dit Dominique de Sentive, mais vous avez couvert donc pour la presse communiste deux autres procès du même type en 1949. Et voici ce que vous avez toujours regretté d'avoir écrit, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, donc en 1949, une vague de procès politiques, vous l'avez dit, et de condamnations à mort, ça va sur les pays de l'Est. D'abord en septembre, en Hongrie, celui de Laszlo Rijk, membre du bureau politique, et de plusieurs autres accusés comme lui de complot pour le compte de Tito, le communiste yougoslave qui a osé défier Moscou à l'époque. Et tous les accusés donc ont avoué, entre guillemets, leurs crimes. Dominique de Sentive, le Parti communiste français vous passe alors commande d'un livre, Masques et visages de Tito et des siens, où voilà comment, fidèle à la ligne du parti à l'époque, vous expliquez les aveux de Rijk. Son ambition et son orgueil expliquent pour une part ses aveux. Il aimait la tromperie subtile de sa vie comme les joueurs professionnels de Monte-Carlo et les spécialistes des chèques sans provision aiment la leur. Et comme eux, Rijk trouvait sa dernière consolation en découvrant son jeu. Donc toujours en 49, cette fois en décembre, vous l'avez dit, Dominique Sentive, la Bulgarie connaît un procès similaire, celui de Trajko Kostov et de ses complices, toujours entre guillemets. Mais cette fois, donc, un événement extraordinaire vient enrayer la machine bien huilée du procès. Le dernier jour, Kostov renie ses aveux. Dominique de Sentive, donc vous êtes présente ce jour-là au tribunal et vous décrirez cette scène bouleversante dans votre livre publié en 74, Les Staliniens. Gris, tassé, Kostov se lève et commence. Dans les derniers mots que je prononcerai, je considère comme un devoir de ma conscience de déclarer devant la Cour et devant la presse internationale que je suis innocent, que ces aveux ont été, et là, brouhaha, cyclone dans la salle, dites-vous. On le fait rasseoir d'urgence. Kostov, dites-vous, sait les tortures qui l'attendent et que la mort ne sera ni rapide ni facile. En effet, il sera exécuté le lendemain. Alors, cette scène en 49 vous trouble, vous rend malade, dites-vous, mais vous écrivez tout de même en rentrant à Paris dans la revue communiste Démocratie Nouvelle. Trahichau Kostov avait gardé son air de doctrinaire sournois, d'homme chafouin et renfermé qui ne sait pas sourire. Kostov était un opposant idéologique que son fanatisme, sa haine du parti, en fait sa haine du communisme, ont amené à la trahison. Quand il eut la parole pour la dernière fois, il a nié l'évidence totalement jusqu'à l'absurde. Et bien plus tard, en 1974, toujours Dominique de Santi, dans votre livre Les Staliniens, vous évoquerez votre gêne d'alors et vous vous demanderez comment vous avez pu écrire ces textes. « J'aurais, nous aurions dû refuser, écrivez-vous. J'aurais pu désavouer ces textes qui me pesaient. C'est le contraire qui s'est produit. Plus les hérétiques nous troublaient, plus le parti nous choquait, plus nous décidions de secouer tout respect humain, de perdre la face aux yeux de la bourgeoisie, de nous engager. »
Alors ces textes terribles de 49 que vous avez eu le courage justement de rappeler...
il ne faut rien renier de son passé.
Alors justement, 25 ans plus tard, dans le texte des communistes que vient de rappeler Stéphanie, vous le regrettez tellement que vous dites ne plus comprendre la personne qui les avait écrits, comme si ce n'était pas vous. Hein, vous reconnaissez plus vous-même.
C'est très curieux. Non, mais c'est très très curieux. Parce que, je vous le répète, la passion politique, c'est comme la passion amoureuse. C'est-à-dire que on ne peut accepter que ce qu'on est prêt à vivre dans sa chair. Et je me disais pour Kostov, pas avant. Je me disais pour Kostov, ça doit être une erreur judiciaire absolument effroyable, mais il y a l'avenir et il faut soutenir cet avenir-là. Et quand la passion m'a quitté, vous savez, c'est exactement quand on aime un homme et que tout le monde vous dit, mais enfin, il ne vous aime plus, il vous trompe, regardez, voilà les lettres, voilà les faits, et vous dites, invention, impossible, c'est impossible, je sais bien que c'est impossible. Et je me suis répété ça, et là, il y avait, en somme, il y avait deux voies. Ou bien, je rentrais de Bulgarie, je disais, voilà, j'ai entendu cet homme et je le crois, car... c'était un mort qui parlait. Ben, on peut croire un mort qui s'exprime. Et là, le parti m'exclut et je reviens à la bourgeoisie, à ma classe d'origine, avec les autres intellectuels.
Parce qu'il y avait chez vous la hantise aussi de quitter le parti, la fraternité du parti, la fête de
terrible.
L'humanité.
C'était terrible, c'était l'arrachement, c'était la passion. C'est pourquoi je vous dis que c'est vraiment comme la passion amoureuse. Il faut que le déchirement soit... total. Et quand il devient total, alors là, on se récupère soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on se mette à haïr cette personne, mais on ne la comprend plus.
Alors le déchirement total sera pour vous ce qui va provoquer votre départ du Parti communiste, l'invasion de la Hongrie par l'URSS et cet appel pathétique lancé par les écrivains hongrois au moment où leur pays était envahi par l'armée rouge. C'était en octobre 1956.
Attention, attention. Ici la Fédération des écrivains hongrois. À tous les écrivains du monde, à l'élite intellectuelle du monde entier, nous demandons aide et secours. Aidez la Hongrie, aidez le peuple hongrois. Au secours, au secours.
Alors, c'est en octobre 56, un appel qui a bouleversé beaucoup d'intellectuels français, comme François Mauriac. Quelques jours plus tard, on l'écoute.
La radio des insurgés hongrois a diffusé ce matin à 7h10 l'appel suivant. Nous nous adressons à vous, Camus, Malraux, Mauriac, Roussel, Vaspers, Eliot, Koestler, Lachnès, Hesse, etc. et tant d'autres combattants de l'esprit. Faites quelque chose, agissez, secouez l'inertie horrible de l'Occident, agissez. Ce message est bouleversant. Agir, hélas, que faire? Les derniers événements nous montrent que dans le monde actuel, la force prime tout.
C'était François Mauriac en 1956, oui, après l'invasion de la Hongrie.
C'est le moment où nous avons fait connaissance d'ailleurs. Oui. Bon, alors, comprenez.
Et où vous quittez le PC.
Mais écoutez, c'est très simple. Khrouchtchev, en février, avait dit il y a eu des crimes de Staline. Ça ne se reproduira plus. Alors, on espérait qu'on allait faire notre autocritique collective et que tout repartirait sur d'autres bases. Et en novembre, le même envoie les chars contre non seulement les écrivains, mais le peuple entier qui se soulevait. Et on nous dit, ce sont des agents des services spéciaux occidentaux. Comment voulez-vous, d'ailleurs, je ne croyais plus en rien, quand l'avenir de, si vous voulez, de l'anticolonialisme, que dans la lutte des Algériens à l'époque, que dans l'avenir possible meilleur de la classe ouvrière, mais ça n'allait pas dans ce sens-là. Donc le Parti communiste ne pouvait pas être le guide de cette action-là, et je suis parti.
Jamais je n'entrerai plus dans une organisation politique, dites-vous, dans vos souvenirs, Dominique de Santi. Et pourtant, vous continuez de militer, vous ne croyez plus en rien, mais vous gardez l'espoir, vous militez contre la guerre d'Algérie, pour l'émancipation aussi de l'Afrique, pour le droit des femmes aussi, vous signez ce qu'on appelait l'appel des 343 salopes, entre guillemets, vous souvenez de cette affaire pour l'avortement.
J'en suis. Mais écoutez, quand on est femme, et qu'on se rend compte qu'enfin on peut faire quelque chose et que ce n'est pas vrai ce qu'on nous disait au Parti communiste, de la révolution d'abord et ensuite tous les droits de toutes les minorités, parce que les femmes étaient considérées comme une minorité, seront reconnues et exaltées. J'ai su qu'il fallait lutter haut, pas à pas, pour les femmes, et je suis entrée assez fortement, je crois, dans ce combat.
Alors surtout, vous continuez, ou plutôt, vous multipliez le nombre de livres. Là, vous menez pleinement une vie d'écrivain.
J'écris enfin des livres, vous voulez dire, parce que j'en ai pas écrit.
Alors là, il y a beaucoup de choses. Il y a des romans, il y a des biographies, dont une m'a vraiment surprise, parce que vous écrivez, vous faites le portrait indulgent, vous ne partagez évidemment pas ces idées, mais d'un homme qui était aux antipodes, qui a fait un choix tout à fait contraire au vôtre, et qui est un écrivain qui est Drieu La Rochelle, qui a choisi la collaboration pendant la guerre. Plutôt que de l'accabler, vous tentez de comprendre.
C'est pour ça que pendant 18 mois, j'ai cherché et ensuite j'ai écrit. Je n'avais jamais parlé avec un fasciste français. C'était pas dans mon milieu, j'ai pas eu l'occasion. Bon. Et je me suis dit, cet homme, il a l'âge de mon père. Il est l'ami de deux personnes, Malraux, qui est un ami, et Aragon, qui a été mon patron au temps de la presse communiste et des éditions communistes. Et il lisait les mêmes livres qu'eux, et que je lis encore. Je ne comprends pas comment il est venu au nazisme, et j'ai voulu essayer de comprendre, et j'ai entrepris cette quête, et c'est ainsi que, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de parler à Malraux quelques semaines avant sa mort, à cause de Drieu, parce que il était déjà très malade, mais il tenait à me parler de Drieu.
Vous citez aussi dans vos souvenirs cette phrase d'Aragon. Aragon, un jour, quelqu'un vient au Parti communiste et puis commence à dire un mal fou, évidemment, de Drieu La Rochelle. C'était vous-même. Qui dites Aragon, ce fasciste de Drieu. Alors la réponse d'Aragon, je la cite. Qu'est-ce qu'on possède chacun? La vie, rien d'autre. La sienne, il l'a donnée pour ses erreurs. Peut-on exiger plus? Il faut rappeler que Drieu La Rochelle s'est suicidé à la fin de la guerre.
Exactement. Ouais. Et alors là, je dois dire, ça a été ma première réflexion. Et la deuxième, c'est un jour que je faisais un cours aux États-Unis et que mon meilleur étudiant avait pris comme thème de son mémoire les deux opposés, Aragon et Drieu, qui avaient été amis, qui avaient rompu, etc. Et a eu cette phrase, et c'est à cause du déchirement entre communisme et fascisme en Europe à cette époque que les deux écrivains se sont engagés dans le même chemin. Et je me suis dit, tiens, il possède le français moins que je ne le croyais. Et je lui ai dit, mais les chemins inverses, vous voulez dire? Il dit, non, madame, le même chemin, le chemin totalitaire. Et je n'avais encore jamais dans ma tête, avec tout ce que je pensais, tout le mal que je pensais du Parti communiste, des erreurs du Parti communiste, je ne m'étais jamais dit que c'était également une organisation totalitaire. Et ça, ça a été le déclic.
Vous êtes une femme passionnée qui s'est tout le temps engagée, Dominique de Santi. Dans quoi est-ce que vous aimeriez vous engager aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des causes encore à défendre? On dit beaucoup que la jeunesse actuelle est assez désabusée.
Écoutez, c'est très simple. Il y a une cause qui se pose à nous et dont De Santi, avant de mourir, a parlé à la télé, à la radio et dans notre livre « La liberté nous aime encore », à la fin de ce livre qu'a composé Roger Paul Droit, de nous deux, ce livre de nous deux, c'est que si nous ne faisons pas quelque chose de vraiment conséquent et réel pour diminuer la faille, pour combler la faille qui sépare nous autres, les peuples riches du Nord, car nous sommes tous riches, même quand on a des ennuis d'argent, on est riche, et les peuples qui crèvent de faim au Sud, alors arriveront des violences dont De Santi disait que les massacres seraient différents, tout à fait différents, mais pires sans doute que ceux du XXe siècle. Et alors après le 11 septembre, il avait dit ça à la télé et tout le monde s'était insurgé en disant « tu exagères ». Et après le 11 septembre, il y a eu beaucoup de coups de téléphone disant « comment avais-tu pressenti ?» Il a dit « je n'ai rien pressenti, mais je sentais que ça allait venir ».
C'était peu de temps avant sa disparition. Merci Dominique de Santi. Je rappelle le titre du livre que vous avez écrit donc avec Jean Toussaint de Santi, « La liberté nous aime encore », un livre disponible chez Odile Jacob. Vous avez également publié vos mémoires, il y a quelques années, « Ce que le siècle m'a dit », un livre toujours disponible chez Plon. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Lidouine Caron et Stéphane Devernay, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, archivina Raïssa Blankoff et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet. Merci Patrice Gélinet pour cette émission déjà diffusée le 7 février 2002. La semaine prochaine, le thème de 2000 ans d'histoire sera consacré à 5 femmes. Lundi, la reine Christine de Suède. Mardi, Aliénor d'Aquitaine. Mercredi, Lady Hamilton. Jeudi, Marie-Antoinette. Et vendredi, Diane de Poitiers. Écoutez France Inter, dans un instant, c'est comme à la radio, vous retrouverez Valik et sa bande de chroniqueurs. Mais pour l'instant, il est 14h sur Inter, le flash est signé Hélène Roussel.
Ils sont déjà des milliers réunis sur le plateau du Larzac. Entre 50 000 et 100 000 personnes se retrouvent à partir de cet après-midi et jusqu'à dimanche pour un grand rassemblement contre la mondialisation libérale. Le plateau du Larzac, il y a tout juste 30 ans, des paysans avaient lutté contre l'extension d'un camp militaire. Aujourd'hui, on fête cet anniversaire, mais c'est aussi une réunion d'opposition à l'OMC. José Bové devrait prendre la parole cet après-midi lors du meeting d'ouverture. Le leader de la Confédération paysanne qui a demandé ce matin au gouvernement de clarifier la position de la France sur la libéralisation des échanges avant le sommet de l'OMC à Cancun, prévu en septembre. Sur les routes, la foule entre Millau et le plateau du Larzac. Et puis dans le reste de la France, la journée est classée orange dans le sens des départs et dans les deux sens dans le sud-est. Pour ce grand week-end de chasse et croisée, c'est du rouge demain et même noir dans certains endroits. Alors soyez prudents, n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement. Le mercure dépasse encore les 30 degrés un peu partout. La vigilance sur les routes, à croire qu'elle porte ses fruits. Le nombre de tués a baissé. Une réduction de 19% en juillet par rapport à l'an dernier. Ce sont 126 vies épargnées. Il y a quand même 535 personnes qui sont mortes sur les routes le mois dernier. La canicule, comme nous vous le disions, s'installe, et c'est vrai pour une bonne partie de l'Europe, mais la chaleur peut aussi être une source de profit. Si le niveau du Rhin baisse en Allemagne, la bière, elle, coule à flot. Selon les brasseurs allemands, il n'y a aucun risque de rupture de stock, et la demande a rarement été aussi forte. L'incendie au nord de Nice, sur la commune de Lucéram, ne cesse de progresser. Plus de 1000 hectares de forêt ont déjà été ravagés et 4 pompiers légèrement blessés. Un dispositif d'évacuation a été mis en place dans le village de Lucéram qui compte un millier d'habitants. En Lozère, dans le Cosméjan, la situation elle est sous contrôle. L'incendie qui a détruit près de 2000 hectares devrait être totalement maîtrisé dans le courant de la journée. La sécheresse et les feux en Italie également. Ce matin, l'autoroute entre Gênes et Vintimille a été fermée pendant 4 heures. L'Italie qui lutte sur plusieurs fronts depuis hier, la région de Gênes donc, mais aussi la Toscane, la Campanie.